D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzy. Il y a en France un ministère de l'Éducation nationale. Et comme nous le savons tous, son intitulé exact pourrait être « Ministère de la réforme de l'éducation nationale ». Par quelle espèce de mystère chaque ministre se croit-il obligé de réformer, ou plus exactement, d'annoncer qu'il réforme ? L'actuel ministre de l'Éducation nationale vient d'annoncer une réforme aussi critiquée, et peut-être aussi destinée à avorter, que la réforme de l'orthographe prévue en son temps par le Premier ministre Michel Rocard, qu'atypique du réformiste sans réforme. Najat Vallaud-Belkacem reculera-t-elle comme il avait dû reculer ? Sa réforme fait que l'auteur de celui qui vous parle serait en quelque sorte interdit de l'éducation qu'il a reçue. J'ai appris l'allemand comme première langue étrangère, puis le latin et le grec. Et tout ça dans le nouveau projet est réduit, nous en parlerons, à des options qu'on pourra choisir dans des modules de programme, du moins pour le latin et le grec. Car pour ce qui est de l'allemand, les classes bilangues, comme on dit dans le galimatia que les gens de cabinet adorent souvent, seraient supprimées, faisant s'attendre à une chute de 15% des élèves apprenant l'allemand à 5%. Ce sont des matières littéraires, n'est-ce pas ? Et ces gens de chiffres, ces impitoyables et brutales gens de chiffres, trouvent que c'est inutile, sinon parfois dérisoire, les matières littéraires. La ministre a qualifié les opposants à son projet de pseudo-intellectuels. J'ignore si elle sait qu'elle reprend là une expression chérie par un intellectuel de droite, Raymond Aron. En tout cas, il est pittoresque de l'avoir employée par une personne qui a raté deux fois l'ENA et fait carrière dans la politique depuis l'âge de 25 ans, quand on sait la haute dose d'intellectualisme qui circule dans ce milieu. Hors de tout fantasme, de toute idéologie et de toute réaction automatique, quel est le secret professionnel du projet de réforme de l'éducation nationale ? Je reçois pour en parler William Marx, professeur de littérature comparée à l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, essayiste, et qui a récemment publié dans Libération une tribune à ce sujet. William Marx, avant d'étudier les raisons possibles de ce projet et ses éventuelles conséquences, je crois qu'il faut voir les faits. Pouvez-vous m'expliquer un peu précisément la teneur du projet ?
Je crois que pour mieux comprendre la teneur du projet, il faut d'abord expliquer et dire en un mot quelle est la situation actuelle de l'enseignement du latin et du grec au collège et au lycée. Actuellement, un élève qui le souhaite peut commencer en cinquième l'étude du latin et en troisième l'étude du grec, s'il le souhaite. Il y a encore des possibilités en seconde d'en commencer le grec en grand débutant. Et donc, il est possible d'apprendre l'une ou l'autre de ces langues, voire les deux, au collège aujourd'hui. Dans la réforme qui est proposée, il n'y a plus prévu d'enseignement, à proprement parler, de la langue latine ou de la langue grecque. Ce qui est prévu, c'est un dispositif qui, à partir de la cinquième, propose à l'ensemble de tous les élèves un choix entre des activités pluridisciplinaires, parmi lesquelles on trouve une initiation au développement durable, une initiation, quelque chose qui s'appelle corps, santé, sécurité, on ne sait pas si ce sont des conseils d'hygiène ou de l'hygiène corporelle, il y a des choses sur l'économie. Et puis, parmi tout ce fatras, il y a un corpus qui s'intitule « Langue et civilisation de l'Antiquité », qui est un ensemble de cours qui dure trois heures par semaine. Bon. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il ne s'agit pas, à proprement parler, d'enseignement du latin, d'enseignement du grec. Il s'agit d'un enseignement, en fait, qui est en principe un enseignement pluridisciplinaire, donc dans lequel interviennent plusieurs professeurs de lycée, et pas un seul professeur qui serait spécialiste de latin et de grec, donc un professeur de lettres classiques, mais y interviennent des professeurs d'histoire ou des professeurs qui n'ont jamais fait de latin et de grec, et qui sont là pour enseigner une sorte de doxa assez générale, une initiation à la culture antique, à la culture classique, l'histoire, la littérature. Alors bien sûr, il y a indiqué langue dans l'intitulé. Mais il faut bien voir qu'en trois heures par semaine, il est très difficile d'apprendre véritablement une langue complètement, de manière à pouvoir la maîtriser. La langue sera mêlée au milieu de culture et de littérature. Donc, dans le meilleur des cas, si dans la semaine, les élèves font une ou deux heures de langue, qui soit soit du latin, soit du grec, mais certainement pas les deux, parce qu'ils ne vont pas faire les deux, et l'enseignement de la langue sera réduit à rien. Donc, il ne sera plus possible, comme c'était possible il y a 20 ans, de faire un cursus complet en latin et en grec au collège et au lycée, et d'arriver en terminale, et c'était mon cas, comme je l'avais fait, en pouvant traduire et lire du Euripide, du Homère, du Lucrèce ou du Virgile ou du Cicéron. Ce ne sera plus possible dorénavant.
D'ailleurs, la nouvelle unité ne prévoit pas de distinction entre le latin et le grec dans cette...
C'est aberrant. Il n'y a aucune distinction qui est faite. Alors, c'est très bien, bien sûr, je comprends. Dans l'idéal, c'est sûr qu'il faudra que tous les élèves qui s'intéressent à l'Antiquité apprennent le latin et le grec, puisque ces deux cultures vont ensemble. En particulier, c'est difficile de comprendre la culture latine antique sans se reporter à la culture et à la littérature grecque. Mais on voit bien que pour des raisons pratiques, il faut être pragmatique sur ces questions-là, on ne peut pas apprendre l'une et l'autre langue en trois heures.
Alors, pardon de vous interrompre, mais oui. le ministère a commencé à reculer un peu, parce que par rapport au projet, à la fin du mois de mars, on a créé, je crois, une heure éventuelle de langue ancienne en classe de 5e.
Effectivement, face à la bronca, le ministère a dit que les lycées, les collèges, les principaux de collèges et les proviseurs de lycées avaient toujours le droit, s'ils le souhaitaient, et sur leurs fonds propres. C'est-à-dire, non, il n'y aura pas de budget propre du ministère pour cela, mais c'est sur le reste d'argent qui reste dans les caisses de chaque établissement, ils ont la possibilité de proposer, s'ils le souhaitent, une heure supplémentaire d'enseignement du latin et ou du grec aux élèves. Mais ils n'y sont pas obligés. Mais même s'il y avait cette heure supplémentaire, on ne reviendrait pas aux horaires qui étaient ceux encore d'aujourd'hui et qui permettent d'arriver avec un cursus complet en latin et en grec au collège et au lycée, d'arriver jusqu'en terminale en pouvant traduire, péniblement sans doute, mais pouvant traduire et comprendre une phrase écrite par un auteur latin et un auteur grec, de véritables phrases. C'est totalement nier la possibilité que donne la langue d'entrer dans une altérité, dans la connaissance la plus profonde d'une civilisation. Comme si les images, les traductions pouvaient nous donner l'essentiel des connaissances.
En fait, ce dont vous avez peur, c'est que une espèce de culture populaire supplée une culture plus élitiste. Et on sait que le mot élitiste est tellement haï de nos jours que c'est comme si on disait pédophilie. Mais ça veut dire qu'on apprendra Brad Pitt dans un péplum plutôt que Cicéron et Sophocle.
C'est-à-dire que moi, je ne suis pas contre la culture populaire. Au contraire, moi, j'aimerais et je le souhaite que la plupart des... Si la réforme est adoptée et passe telle qu'elle, je souhaite que la plupart des collégiens choisissent cette option langue et culture de l'Antiquité contre les pseudo-options qui n'apportent aucun savoir vraiment particulier comme développement durable, par exemple, et que tous aient au moins cette teinture de culture latine et grecque qui est essentielle pour la compréhension de notre civilisation. Mais ce que je regrette, c'est pas le problème qu'on propose à tous le latin et le grec. Au contraire, ça c'est une bonne chose. Et c'était déjà le cas. Mais le problème, c'est que ceux qui le souhaitent ne pourront en aucun cas obtenir le même nombre d'heures de formation à la langue. Or, c'est comme si les problèmes de langue, les problèmes d'apprentissage, ce qui demande réellement un effort. Parce qu'on ne peut pas apprendre une langue sans faire d'efforts et sans travailler, sans apprendre des déclinaisons, des conjugaisons, sans apprendre un peu ou voire beaucoup de grammaire. Et c'est ce travail-là qui est extrêmement formateur. Et c'est tout cela qui disparaît. Tout ce qu'on nous propose simplement, ce sont apparemment, dans le meilleur des cas, des textes à trous et les élèves choisiraient le mot latin ou le mot grec qu'il faudrait mettre dans les trous. C'est vraiment se moquer du monde.
Or pourtant, William Marx, dans l'exposé des motifs du projet du ministère, on lit que le projet est exactement pour le contraire de ça, et même le ministère donne, et la ministre donne pour exemple des exemples effarants, qui est que depuis l'an 2000, que ce soit en mathématiques ou en français, selon des critères que je n'expliquerai pas, les élèves de collège ont régressé entre 2 fois et 9 fois plus que les autres pays de l'OCDE en France. C'est-à-dire que le ministère est en train de nous dire que lui-même crée de l'inculture.
Lui-même crée de l'inculture, dit-il. C'est possible, mais ces statistiques, nos statistiques sur les moyennes, et donc c'est le niveau moyen des élèves, le ministère ne cesse de répéter que c'est qu'en revanche, le niveau des meilleurs élèves, quand je dis meilleurs élèves, c'est-à-dire les 20 ou les 30% meilleurs, lui n'a pas changé. Et or, cela prenait effectivement ces options qui demandaient beaucoup d'efforts, latin et grec. Et donc, c'est effectivement, il faut agir sur une masse importante, 50% des élèves qui, effectivement, ont du mal à suivre. Et il faut leur proposer des enseignements adaptés. Et il est vrai que depuis 30 ans ou 40 ans, on a cessé de vouloir rassembler les élèves dans les mêmes classes, alors que tous, à l'évidence, ne sont pas capables de faire exactement les mêmes études. Il faut s'adapter. On voit dans beaucoup d'autres pays, en Suisse, en Allemagne, qui sont quand même des modèles du point de vue de l'économie, que très tôt, les élèves sont orientés vers des filières qui sont beaucoup plus adaptées à leur capacité. Et il n'y a ici aucun jugement de valeur à porter, mais simplement, il faut donner à chacun ce qu'il souhaite.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas derrière ça, au fond, une grande réflexion? William Marx, dans un des articles très avisés qu'il consacre depuis les débuts de la querelle à la question, Laurent Nunez, qui est le chef des pages culture de Marianne, fait remarquer que 18% des élèves de collège apprennent le latin et le grec, et que tout ça devient 4% au lycée, et que donc, en réalité, la grande hypocrisie est que c'est juste une manière de faire des économies.
À la limite, ce serait la meilleure façon de justifier la réforme. Qu'il s'agit vraiment de faire des économies alors qu'on le dise clairement. Et effectivement, à la limite, on peut comprendre. Et les parents paieront peut-être spécifiquement pour des cours. Mais il faut le dire. Mais on ne peut pas cacher la réforme, peut-être, sous un argument qui serait qu'en supprimant le latin et les grecs, on va élever le niveau général. Mais c'est quand même le discours de la ministre. Donc, bien sûr, il n'y a que 5% d'élèves qui poursuivent jusqu'au latin et grec. Effectivement, et après l'université, il y en a très très peu qui font du latin et du grec. Mais il n'empêche que ces 5%-là joueront un rôle par la suite. Et ce n'est pas en supprimant l'enseignement de ces langues que l'on favorisera la meilleure insertion ou la meilleure formation des autres. Il faut faire les deux à la fois.
Nous allons maintenant entendre Juliette chanter Francis Cae Meae Laudes. C'est non seulement du latin qui veut dire « Éloge de ma chère Françoise », mais aussi bien sûr un poème de Charles Baudelaire. Et l'album de Juliette porte le titre latin de « Mutatis mutandis », soit en français évidemment l'un dans l'autre.
Viste cantabo cordis, o noelet un colludis, in solitudine cordis. Esto certis implicata, o femina delicata, per quam soluntur peccata. Sicut beneficum lete, auriamus culla dete, quae imbuta es magnete, cum viciorum tempestas, turbavat omnes semitas, apparuisti deitas, apparuisti deitas. Velut stella salutaris in naufragis amaris, suspendam cor tuis aris. Piscina plena virtutis, fons eterne juventutis, labris vocem redemutis. Quoderat spurcum cremasti, quod rudius exequasti, quod debile confirmasti, infame mea taberna, in nocte mea lucerna, recte me semper guberna, recte me semper guberna.
William Marx, je voudrais que nous analysions maintenant plus profondément ce projet de réforme dont nous parlons depuis le début de ce secret professionnel. Il faut dire d'abord que ces attaques, si on peut appeler ça comme ça, contre le latin sont réitérées depuis longtemps. Mes parents à moi trouvaient qu'il y avait une grande décadence car je n'avais qu'une initiation au latin en 5e et eux avaient appris en 6e. Et en fait, tout ça a commencé au moins sous la République en 1902 par une loi qui a fait reculer le latin, mais c'était pour des raisons beaucoup plus compréhensibles, je crois, à l'époque. C'était Le latin, c'était l'Église, et c'était une époque de grandes querelles. C'était avant la séparation de l'Église et de l'État. Et puis, ça participait probablement d'une croyance tout à fait sincère et légitime dans les matières scientifiques qui existaient beaucoup à cette époque-là. Les choses, me semble-t-il, ont évolué quand on est arrivé à un autre ministre socialiste comme Claude Allègre, un ministre de l'Éducation, qui avait osé déclarer que l'enseignement du grec ne servait à rien. Donc là, il y a un changement de nature dans les critiques, n'est-ce pas ?
Oui, c'est-à-dire que effectivement, si l'on regarde sur un très long terme, jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, dans les lycées ou dans l'équivalent des lycées, l'enseignement se faisait entièrement en latin. Donc il y a eu forcément une régression parce que la science, le savoir, la littérature se sont développés dans les langues vernaculaires. Donc il est tout à fait normal que l'on fasse beaucoup moins de latin et beaucoup moins de grec qu'on ne le faisait il y a deux siècles, ou il y a un siècle encore, à la fin du XIIe siècle, les thèses se faisaient encore en latin et tout doctorant soutenait deux thèses, une thèse en français et une thèse en latin. Donc il ne s'agit pas ici de lutter pour que tout le monde fasse du latin et que l'enseignement se fasse en latin et en grec. Il est clair que ce sont des langues anciennes qui ont été des langues de toute une civilisation, de toute la civilisation européenne. C'était la langue de communication entre tous les lettrés, tous les savants, jusqu'au 18e, voire au 19e siècle. Et donc, il est important de ne pas, même si ce n'est plus la langue de communication qu'elle était, il est important de garder notre propre communication avec ce passé-là, qui est notre passé. Et pour ce faire, il est important de conserver cet apprentissage de la langue latine et aussi de la langue grecque qui est si importante dans l'histoire de la pensée, l'histoire de la philosophie.
Puisque, comme nous savons, ces afro-latins n'étaient que des imitateurs des Grecs.
Ils n'étaient que des imitateurs des Grecs, ils ont beaucoup changé les Grecs, mais nous-mêmes, nous ne sommes que des latins qu'ils ignorons. Il faut savoir, j'ai lu parfois les meilleurs défenseurs, ou les plus mauvais, les meilleurs défenseurs du latin et du grec ont parfois des arguments qui sont totalement aberrants. J'ai lu quelque part, pour quelqu'un qui voulait très sincèrement défendre le latin, disant que le latin c'est très important pour nous puisque le français est fait à 70% de latin. J'ai sursauté en lisant cela. Le français n'est pas fait à 70% de latin. Le français, c'est du latin. Le français, c'est du latin, à 100%, avec, bien sûr, pour vocabulaire, bien sûr, des mots qui viennent d'ailleurs, de l'anglais, de l'arabe, ailleurs, mais le français, grammaticalement, tout ça, c'est du latin. Ce que je veux dire par là, c'est que nos ancêtres, ou les gens qui ont vécu sur ce sol, peu importe ce que c'est nos ancêtres ou non, les Gaulois et les Français qui se sont succédés sur ce sol n'ont jamais cessé de parler latin. Seulement, ils ont parlé un latin dont la prononciation ne cessait de se transformer et dont il modifiait la grammaire, il la rendait un peu différente. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu à un moment, il y a eu un tel écart entre la prononciation des mots et la manière dont ils étaient écrits en latin qu'on a adopté une autre orthographe et on a écrit de manière plus phonétique, ce qui a donné notre français. Mais d'ailleurs, chaque phrase française que nous prononçons, il y a du latin. Si je dis « il veut de l'eau », par exemple, vous avez une phrase latine derrière que je pourrais l'écrire. Il est vult de illa a, quoi. Et c'est exactement, ce sont les mots d'origine, et c'est exactement cette phrase-là, et c'est exactement cette phrase-là que je le prononce, mais je ne la prononce pas à la latine, je la prononce à la française.
Vous avez probablement raison, il y a une grande part de mauvaise foi, mais y compris dans ceux qui attaquent le projet, car Luc Ferry, qui fait l'indigné, à ma connaissance, n'avait pas été beaucoup plus brillant dans la défense des humanités, ou ce qu'on appelait...
Bon, il faut prendre tous les partisans là où ils sont, tous les arguments ne sont pas bons. Mais je pense que l'argument qui est que la langue française, c'est d'abord du latin, et que si l'on veut comprendre mieux la langue que nous parlons, et si on veut pénétrer dans ses mécanismes, pénétrer dans sa littérature aussi, vous avez parlé de ce poème latin de Baudelaire, je vous rappelle que Rimbaud, qui est, comme on dit, le grand poète révolutionnaire, etc. Rimbaud était premier prix de composition latine
mais
au
comment,
concours général.
Jean Genet aussi. Jean Genet, qui était le supposé voyou de la République, était très bon en...
Les meilleurs novateurs en français sont des gens qui connaissaient le latin. Et donc, il y a eu aussi d'excellents écrivains français qui ne connaissaient pas le latin. Ce n'est pas la question. Mais il est extrêmement important de garder un pied dans ce passé de la langue, qui est absolument indispensable pour mieux comprendre ce que nous disons.
Alors, William Marx, dans votre tribune de Libération, qui a paru le 30 avril, vous suggérez une comparaison entre le projet et la montée des intégrismes religieux qui détruisent les vestiges des civilisations, comme on le voit ces temps-ci au Proche-Orient. Est-ce que vous n'allez pas très fort ?
C'est peut-être un peu fort, mais quand même, je crois qu'il y a là une sorte de présentisme un peu général.
Qu'est-ce que vous appelez le présentisme ?
Le présentisme, c'est une obsession du présent, une obsession d'un futur dans lequel on veut nous entraîner, sans vouloir comprendre qu'on ne peut pas faire un pas, aller dans une direction, si on ne sait pas d'où l'on vient. On risque de répéter les erreurs du passé si on ne sait pas d'où l'on vient. Et donc, je trouve que les problèmes qu'on rencontre actuellement dans la réforme sur l'histoire vont de pair aussi avec les problèmes que l'on rencontre sur l'enseignement du latin et du grec. Sans doute, hein, il ne s'agit pas, ici, il n'a pas encore été question de faire exploser la victoire de Samothrace ou la Vénus de Milo. Mais d'une certaine manière, en supprimant l'enseignement de la langue et du latin et du grec, on supprime notre passé.
Ne dis pas supprimer, car vos adversaires, à leur tour, diront qu'on ne les supprime
pas. En le quasi-supprimant, puisque ce n'est pas avec 3 heures d'enseignement fusionné de sculpture, de littérature, de films et un peu de langue qu'on apprend une langue. Donc, ce qui est vraiment en jeu ici, c'est l'apprentissage profond, travaillé, laborieux d'une langue et d'un passé. L'appropriation d'un passé, et qui n'est pas seulement un passé très ancien, comme je le dis, c'est un passé très récent, c'est-à-dire que jusque en 1902, vous l'avez dit, jusqu'à la fin du 19e siècle, le latin était encore une langue de communication intellectuelle, scientifique. Et donc, se couper de cette langue-là, comme du grec, du reste, c'est en fait se couper de toute la civilisation qui nous précède, ainsi que de tout ce qui faisait l'unité de la culture européenne.
Fondamental. Vous avez employé un mot là qui est peut-être essentiel, c'est-à-dire que outre l'accusation de passéisme dont on voit qu'au fond elle ne tient pas, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose contre l'effort et l'idée même d'effort qui est valorisé dans bien des choses? Finalement, on vit une culture de l'effort en permanence, les sportifs, les capitalistes sont... Mais dès qu'il s'agit de matière en particulier littéraire, cet effort est honni.
L'effort est effectivement loué pour le sport, mais au lycée, au collège, il semble que nos chères têtes blondes soient incapables du moindre effort. Et il semble que ça. Or, en fait, on sait bien que les enfants, les adolescents, ils ont une soif de connaître, ils ont une soif d'apprendre. Et souvent, s'ils s'ennuient au collège ou au lycée, c'est parce qu'on ne leur donne pas assez de matériaux puissants auxquels ils puissent escrimer leur esprit. Alors, bien sûr, il y a de tout. Il y en a qui feront plutôt un effort pour s'intéresser à une mécanique d'auto ou pour construire une charpente. Mais il y a ceux qui voudront déployer leur force intellectuelle pour comprendre une phrase de latin ou une phrase de Platon. Et c'est un effort qui mérite, et qui est un effort joyeux, et qui mérite d'être valorisé, et qui est extrêmement formateur. Tout ne peut pas être appris avec le plaisir. Je regrette, une langue, on n'a jamais appris une langue sans travailler. C'est impossible. Or, la maîtrise des langues est absolument
y compris la nôtre, l'apprentissage du français est difficile.
Y compris la nôtre. Et par exemple, quand on apprend le latin, on n'apprend pas seulement ce qui était l'origine du français, on apprend aussi ce qui était l'origine de l'italien, on apprend aussi ce qui était l'origine de l'espagnol, on apprend aussi ce qui était l'origine du portugais. Et donc, c'est ce qui nous permet d'apprendre déjà très facilement, à partir du latin, d'apprendre quasiment l'ensemble des langues romanes.
Est-ce que vous pensez que derrière les motivations de ce projet, on parlait tout à l'heure des mesures d'économie qui paraissent manifestes, mais est-ce qu'il y aurait une espèce de bourdieusisme, car vous savez que Bourdieu, qui n'était pas sans fanatisme, a qualifié la culture dans la reproduction, je le cite, d'instrument privilégié qui confère aux privilégiés le privilège suprême de ne pas apparaître comme privilégié, et que tout ça, au fond, ce sont des matières bourgeoises qu'on voudrait éradiquer.
Il y a eu effectivement un mécanisme de distinction qui permet à une culture de se reproduire et de marquer un mécanisme de domination d'une classe sociale sur l'autre. Il y a beaucoup de choses justes dans ce que dit Bourdieu. Il y a un certain nombre de problèmes malgré tout, qui est d'une part qu'il simplifie les rapports de domination jusqu'à en avoir qu'un seul, alors que la société est traversée
de rapports de domination et qu'il y a les dominations, effectivement, une certaine domination dans certaines situations des bourgeois sur les classes populaires, mais il y a d'autres dominations des classes populaires sur les autres et de certaines, et puis c'est pas seulement des classes populaires, mais il y a ça, chaque fois, dans toutes les situations, il y a des rapports de domination qui ne sont pas des rapports liés à l'argent. Mais surtout, le problème de ne voir dans des matières comme la littérature ou comme le latin ou comme le grec que des enjeux de distinction qui permettent à une classe de se distinguer de l'autre, c'est obérer toute la qualité et le pouvoir qu'ont ces matières, qu'ont ces disciplines. C'est-à-dire, la littérature, ça donne de la joie, ça donne une façon de comprendre le monde. C'est pas seulement une manière de me distinguer de mon voisin. Le latin et le grec ne sont pas seulement une manière de me distinguer de ce qu'ils ne connaissent pas. Ce sont d'abord et surtout une manière d'entrer dans une culture et de me donner à moi, pas seulement, mais à tous ceux qui le font, un plaisir incroyable de mieux comprendre d'où sont sortis le Parthénon et le Colisée.
D'ailleurs, pour venir à votre appui, j'ai une belle phrase de Paul Venn dans un livre qui est d'ailleurs le très beau livre, qui est La Société Romaine, et qui répondait indirectement à Bourdieu, peut-être même directement. Il dit « Il faut se méfier de toute sociologie et peut-être de toute la sociologie. Que la culture, une fois qu'elle existe, devienne une barrière de classe, cela va de soi et ça fait un bon siècle qu'on le sait par cœur. La culture, c'est aussi une question de fierté, de rapport à soi, d'esthétique si l'on veut, d'amour et de constitution du sujet humain. » Est-ce qu'au fond, en attaquant des matières comme ça et des matières littéraires qui sont, vous avez employé le mot tout à l'heure aussi, une manière de comprendre d'autres choses que nous et l'altérité, c'est pas d'une certaine façon l'humain qu'on attaque?
C'est l'humain et c'est aussi la culture dans son déploiement historique. C'est le fait, c'est oublier que nous ne sommes pas nous-mêmes, simplement parce que nous ne sommes pas faits nous-mêmes, mais nous appartenons à une culture, à une civilisation qui sont le produit d'un très très long développement sur de nombreux siècles, de nombreux millénaires, et nous ne pouvons pas nous couper comme cela de ce qui nous précède, parce que se couper de ce qui nous précède, c'est aussi se couper de tous ceux qui nous entourent, parce que cette culture-là, c'est une culture qui est un moyen de communication entre à l'intérieur même de la société, entre tous ceux qui partagent cette culture, qui nous vivons de référence au monde latin, au monde grec, parmi nous dans la publicité, et cette culture là est très présente. Mais aussi, c'est aussi une culture qui unit l'ensemble des populations européennes et méditerranéennes, parce qu'il ne faut pas oublier que cette culture latine et grecque, c'est aussi une culture des deux rives de la Méditerranée. Certains des plus grands auteurs latins et grecs étaient des auteurs qui vivaient dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique du Nord. Et donc, pour recréer ce sentiment d'une unité culturelle dans notre pays, il est extrêmement important de retrouver les racines d'une culture qui a embrassé le bassin méditerranéen et dans laquelle se sont retrouvées toutes les religions, de cette manière.
Certains de ceux qui approuvent la réforme, et ça sera ma dernière question, William Marx, disent que au fond, il faut reconnaître que le latin et le grec sont inutiles. Vous avez depuis une demi-heure démontré le contraire, mais quand bien même il serait inutile, est-ce que toute matière enseignée et apprise doit être utile, et est-ce qu'on ne peut pas défendre la chose indispensable qu'est l'inutile?
Je crois qu'il faut défendre ce qui ne peut pas être appris ailleurs qu'à l'école. Il y a quantité de savoirs qui peuvent être appris simplement en écoutant la radio ou en regardant la télévision. Et un très bon programme de télévision, il y en a, peuvent permettre d'apprendre beaucoup de choses sur l'économie, sur le développement durable. Il y a un certain nombre de savoirs qui, au contraire, ne peuvent pas être appris à la télévision. Apprendre une langue en particulier, ça ne peut pas être fait sans qu'il y ait un effort personnel. Cet effort, c'est de l'ordre de l'humain, comme on disait tout à l'heure, et c'est quelque chose qui est fondamental pour la communication avec les autres et la communication avec les anciens, avec le passé et aussi avec l'avenir. Et donc, je crois que l'inutilité, simplement, on appelle inutile ce qui n'est pas dans la communication la plus généralisée dans les mass-médias. Mais ce n'est pas inutile, c'est simplement que ça s'apprend avec, ça demande de l'effort, et c'est cet effort qu'il faut produire à l'école parce qu'on ne peut pas le produire ailleurs.
C'était Secret Professionnel, le 174e. Réalisation Clotilde Pivin, attaché d'émission Daphné Abgral, prise de son Julien Doumain. Dans un instant, Ville Monde.